Bonjour à tous, merci aux auditeurs de Radio Capi. Merci aux journalistes à Kinshasa qui ont bravé la pluie diluvienne ce matin pour cette nouvelle conférence de presse des Nations Unies en République démocratique du Congo. Avec nous depuis Goma, le porte-parole militaire de la mission, le lieutenant-colonel Claude Raoul Djeongo. Et à mes côtés ici à Kinshasa, le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations, Fabien Sambussi, à l'occasion de la Journée internationale des migrants qui est célébrée aujourd'hui même. Nous sommes aussi connectés avec nos collègues à Bukavu et à Bunia. D'abord, je voulais vous indiquer que le Conseil de sécurité des Nations Unies a prévu de se réunir demain à New York pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO. Une fois celui-ci adopté, nous l'étudierons attentivement et dès le début de l'année prochaine, la représentante spéciale du secrétaire général en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, Leila Zerougui, viendra vous en parler en personne pour la première conférence de presse de l'année 2020. Leila Zerougui, qui a condamné les nouvelles attaques attribuées aux ADF dans la région de Beni, qui ont fait 22 morts à Ntombi samedi et 12 morts à Kamango dans la nuit de dimanche à lundi. Elle a souligné que ces attaques barbares sont orchestrées dans le but de briser la confiance de la population et de discréditer aussi bien les troupes DFRDC que la MONUSCO. La MONUSCO travaille à identifier les risques et les personnes à l'intérieur des communautés qui permettent à ces massacres de se poursuivre, et elle fait ce travail en étroite coordination avec les FRDC et les forces de sécurité congolaises. Toujours à Beni, depuis 2 semaines, des officiers de l'armée brésilienne spécialisés dans les combats en jungle forment des officiers et des sous-officiers de la 2e compagnie du 141e bataillon des FRDC. Cette première phase de formation va durer 3 mois et elle concerne des officiers et sous-officiers FRDC qui seront eux-mêmes des futurs formateurs. Ce sont au total 3 bataillons des FRDC qui sont concernés. Cette demande de formation des militaires congolais a été sollicitée par les militaires congolais eux-mêmes et les éléments formés ont été sélectionnés selon les critères des Nations Unies qui impliquent le respect des droits de l'homme. La MONUSCO a fait appel aux spécialistes brésiliens en raison de leur expérience avérée dans le domaine des combats en jungle. Après les attaques coordonnées contre les équipes de la riposte Ebola à Manguina et Biakato dans la nuit du 27 au 28 novembre, les agences des Nations Unies, la MONUSCO et le département de la Sûreté et de la Sécurité ont lancé un plan conjoint incluant la mise en place d'un pont aérien entre Beni et Biakato pour améliorer le soutien sécuritaire et permettre la pleine reprise des activités de lutte contre Ebola dans la zone en coordination avec les autorités congolaises. La MONUSCO s'est engagée à renforcer les conditions sécuritaires nécessaires au travail des équipes de la riposte sur le terrain par l'augmentation du nombre des casques bleus sur place, la construction d'une base sécurisée à Biakato et la mise en place de structures opérationnelles et de coordination à même de fournir le soutien sécuritaire réclamé par les équipes de la riposte. En Ituri, une délégation mixte du Comité provincial de sécurité de l'Ituri et de la MONUSCO s'est rendue ce week-end à Tchabi, en territoire d'Irumu, afin d'évaluer la situation sécuritaire dans la chefferie de Banyali Tchabi, où la population dit craindre des incursions des ADF. Les autorités congolaises et la MONUSCO ont promis de renforcer leur position dans la zone afin de contrer toute tentative d'incursion. Des patrouilles communes MONUSCO-FRDC sont également prévues. La MONUSCO a en outre entrepris depuis le 2 décembre des travaux de réhabilitation partielle de la piste de l'aéroport de Bunia, qui est longue de 1850 mètres. Cette piste est parsemée de nids de poules et de trous qui exposent les avions à des accidents. Les travaux vont durer 6 mois. Enfin, la République démocratique du Congo s'est dotée d'un nouveau plan d'action quinquennal 2020-2024 pour la réforme de la police nationale congolaise. Un atelier de validation de ce plan a eu lieu à Kinshasa la semaine dernière avec l'appui technique et financier de la MONUSCO. Il a été clôturé le 12 décembre par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Gilbert Kankondé. Ce plan offre un cadre d'action étalé sur 5 ans pour les projets de réforme à entreprendre par les acteurs nationaux et les acteurs internationaux dans le but de professionnaliser la police congolaise et de lui permettre de remplir ses missions régaliennes. Je donne maintenant la parole à mon collègue porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant Claude Raoul Djeongo, à Goma. C'est à vous. Lieutenant, est-ce que vous êtes là? Bon, en attendant que notre collègue de Goma puisse nous rejoindre, je vais donner quelques nouvelles de l'équipe pays des Nations Unies. Le coordonnateur humanitaire des Nations Unies, David McLachlan Carr, a exprimé sa vive préoccupation concernant les conditions de vie dans le camp militaire de Niamouniyi et ses environs, suite aux opérations des forces armées de la République démocratique du Congo dans la région de Kalehe, dans le sud Kivu. Les autorités congolaises ont l'obligation de garantir le respect de la dignité humaine et des principes humanitaires, a-t-il déclaré, alors qu'au moins 21 personnes détenues, dont des enfants, ont succombé aux mauvaises conditions de vie dans le camp. Le coordonnateur humanitaire a souligné la disponibilité des Nations Unies à soutenir les autorités dans le processus pour garantir le respect des droits fondamentaux dans les opérations militaires contre les groupes armés en République démocratique du Congo. Et à cet égard, nous rappelons que l'accès aux personnes ayant besoin d'une aide humanitaire est essentiel. Je vous signale également que le Bureau de coordination des affaires humanitaires a publié une note d'information sur le choléra dans la province du Tanganyika. Chaque année, les victimes du choléra se comptent par milliers, dont des centaines de morts. L'épidémie actuelle qui frappe le Tanganyika remontait à 2018, et bien que la tendance générale cette année reste à la baisse comparée à l'année précédente, la situation reste très préoccupante, notamment dans les zones abritant les personnes déplacées internes et retournées, où les conditions d'hébergement restent précaires en raison de la promiscuité et de l'accès rare à l'eau potable. Cette note d'information est disponible sur Internet. Enfin, plus de 80 experts ont participé au lancement d'un projet novateur à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, comme vous le savez. Un projet mené par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la FAO, en partenariat avec le Fonds Mondial pour la Nature. Ce programme vise à appuyer les communautés locales dans la gestion durable des ressources forestières afin de lutter contre la déforestation. La RDC possède une superficie de 155 millions d'hectares de couverts forestiers. Les forêts congolaises, au regard de leur grande étendue et de leur richesse exceptionnelle, sont une des locomotives du développement socio-économique et de réduction de la pauvreté des populations. Mais ces forêts sont menacées de dégradation, non seulement par des coupes non contrôlées, mais surtout par l'agriculture itinérante sur brûlis, l'exploitation illégale et les feux de forêt. Environ 532 000 hectares de forêts sont perdus chaque année, entraînant des pertes importantes en matière de biodiversité. Dans le cadre du projet, la résilience des communautés vulnérables sera notamment renforcée à travers l'appui au développement de cultures de rente, café, cacao et palmiers, et la gestion durable de 480 000 hectares de forêts communautaires. Est-ce que nous sommes maintenant connectés avec Goma, le porte-parole militaire ?
Bonjour, j'espère que vous me recevez maintenant.
Oui, on vous entend, on vous écoute.
Mesdames, Messieurs, bonjour. La situation sécuritaire demeure préoccupante, surtout dans le territoire de Bénin. Si les manifestations organisées fin novembre et début décembre contre la MONUSCO se sont estompées par la suite de moufles appels à l'apaisement et au calme, la tension quant à elle persiste en raison de la poursuite des meurtres des civils perpétrés par les ADF. La force de la MONUSCO reste plus que jamais engagée aux côtés des forces de défense et de sécurité de la RDC, en vue de mettre fin aux atrocités dont sont victimes les populations innocentes. Sur le plan opérationnel, les principales informations sur la situation sécuritaire dans les différentes provinces se présentent comme suit. Dans la province de l'Ituri, il s'observe une baisse significative des attaques et activités criminelles. La force assure la sécurisation des camps de déplacés de Loda et de Roué, ainsi que la protection des agriculteurs pendant cette période de récolte dans les champs et fermes. Dans le territoire de Bénin, comme je l'ai annoncé plus haut, les manifestations de foule de fin novembre et début décembre se sont estompées. Cependant, les tueries erratiques de civils par les ADF se poursuivent avec pour but de semer la terreur et la psychose au sein des populations et de saper les efforts des forces engagées dans la dure et pénible restauration de la paix dans le territoire de Bénin. Les massacres des 14 et 15 décembre 2019 en sont une parfaite illustration. À la suite de ces attaques, la force de la MONUSCO a aidé à l'évacuation par hélicoptère de certaines victimes de la localité de Kamango à Bénin. Elle s'attelle en coordination avec les FARDC, la police nationale congolaise et d'autres acteurs à identifier les complices des atrocités infligées aux populations. Dans le reste de la province du Nord Kivu, des mouvements de protestation en soutien aux populations de Beni ont été observés, notamment à Lubero et à Butembo. Les affrontements entre divers groupes armés le NDC Rénové, la coalition Niatoura, l'FDLR et puis la PCLS dans le territoire de Massissi constituent une menace pour les populations civiles. Dans la province du Sud Kivu, la situation, bien que stable, demeure fragile. Les opérations des FARDC contre les groupes armés se poursuivent avec pour corollaire des déplacements de populations pour échapper aux représailles. Au titre de la coopération civilo-militaire, les unités de génie de la force de la MONUSCO réhabilitent la route Aveba-Bukiringi, longue de 37 km dans la province de l'Ituri. Ceci facilitera la circulation de la population locale et le transport de marchandises, améliorera ainsi les conditions de vie des populations. Elle facilitera en outre la mobilité de nos troupes dans le cadre de la protection des civils ainsi que d'autres activités des acteurs humanitaires. Enfin, il convient de mentionner la réduction de 65 éléments appartenant à divers groupes armés au cours de ce mois de décembre, portant à 4632 le nombre d'ex-combattants ayant déposé les armes dans l'année 2019. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci, lieutenant. Je passe maintenant la parole à notre invité, Fabien Sambucci, qui est donc le chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations.
Bonjour et merci pour l'invitation. Avant toute chose, je pense dans cette journée internationale pour les migrants, il est intéressant pour moi de revenir un peu plus en détail sur ce qu'est la migration, ce qu'elle représente, qu'elle soit interne, internationale, régulière, irrégulière, voulue ou forcée. Il est important de savoir de quoi l'on parle, de qui l'on parle, des migrants eux-mêmes, des pays ou des États concernés, mais également des populations hôtes qui sont impactées par les phénomènes migratoires, tant dans les pays d'origine, les zones de transit, les destinations finales, et finalement, peut-être le plus important, le rôle, les responsabilités de chacun. Je pense qu'aujourd'hui, on voit très souvent les risques et l'aspect néfaste de la migration et on oublie très souvent de mettre en avant ce qu'elle représente et notamment ses opportunités. La migration, telle que nous la définissons, c'est un déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes, soit entre pays, soit dans un pays lui-même. La notion de migration enveloppe tout type de mouvement de population impliquant un changement de lieu ou d'une résidence habituelle. On peut définir quelles sont les causes, la composition, la durée. Ça inclut notamment les travailleurs migrants, les réfugiés, les personnes déplacées, déracinées. Ça inclut aussi la diaspora, qu'on oublie très souvent, mais aussi les victimes de traite et de trafic d'êtres humains. Différents types de migration, mais certains qui sont peut-être plus importants en République démocratique du Congo. On peut parler spécifiquement peut-être de la migration irrégulière qui est définie telle qu'un migrant contrevenant à la réglementation du pays d'origine, qu'il soit en transit ou qu'il soit arrivé à destination, qu'il soit rentré irrégulièrement sur le territoire ou qu'il y soit maintenu pour une durée au-delà de la durée de validité de son titre de séjour ou alors qu'il se soit soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement. L'autre thème important en République démocratique du Congo, je pense, c'est la notion de migration forcée. C'est un terme qu'on utilise généralement pour décrire un mouvement qui est non volontaire, causé soit par la crainte de persécution, soit par les conflits armés, les troubles internes, mais également les catastrophes naturelles. Tous ces troubles qui sont provoqués soit par l'homme, soit par des catastrophes naturelles. La notion de migration comprend les réfugiés, les déplacés internes, mais va aussi bien au-delà. Plus spécifiquement, en République démocratique du Congo, l'action de l'OIM s'articule autour de trois piliers. Ces trois piliers qui sont la protection des migrants, la stabilisation des communautés ou des populations à risque, et finalement la réglementation. Ceci, plus concrètement, se décline en une série de programmes ou de projets, et on pourrait peut-être en citer les principaux. Le premier, sans doute, serait l'assistance humanitaire et plus particulièrement l'assistance aux personnes déplacées internes, qu'il s'agisse de leur enregistrement, de la coordination de l'assistance qui leur est apportée, ou bien, à l'heure actuelle, la réponse à l'épidémie d'Ebola. On pourrait aussi mentionner le support et la prévention à la résolution du conflit. En République démocratique du Congo, la plupart des déplacements internes sont issus de conflits armés. La certification des sites miniers, parce qu'ils représentent potentiellement une source de conflit, mais pas seulement, aussi parce que beaucoup de travailleurs dans ces sites-là sont des travailleurs forcés, des travailleurs migrants importés et potentiellement des victimes. Regardant un petit peu au-delà, et comme je le mentionnais au début, regardant les opportunités, il y a des opportunités telles que la diaspora, que l'on sous-estime très souvent. La diaspora congolaise, d'après les données du gouvernement, est estimée à peu près 16 millions de personnes. Et les transferts d'argent de la diaspora vers la République démocratique du Congo sur une base annuelle sont estimés à 1,6 milliard de dollars américains. Quand on parle d'opportunité, je pense que c'est une opportunité que l'on sous-estime un peu trop fréquemment. Continuons un petit peu sur la liste des activités clés. Il y a aussi l'appui à la gestion des frontières et l'appui à la Direction générale des migrations, la lutte contre la traite d'êtres humains et le trafic illicite de migrants, mais également l'assistance au retour volontaire de migrants qui souhaitent rentrer au pays mais qui n'en ont pas forcément le moyen, ou bien, à l'inverse, la mise en place d'une clinique que nous avons à Kinshasa pour faciliter l'obtention des certificats médicaux qui sont très souvent des certificats essentiels pour obtenir un statut de migrant régulier.